Vous écoutez, on lit pour vous.
Les principaux obstacles à l'intégration et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Un texte de Mélissa Lévy, conseillère en orientation, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad. Les personnes en situation de handicap qui souhaitent intégrer le marché du travail peuvent se heurter à différents obstacles, que ce soit les préjugés des employeurs, des lieux de travail qui ne sont pas accessibles, des collègues qui voient en eux un danger de passe-droit ou une charge accrue de travail pour eux, étant donné qu'ils associent les personnes en situation de handicap à des capacités diminuées. Plusieurs embûches se placent sur un chemin déjà chaotique en raison du contexte économique incertain, de la rareté de certains types d'emplois, ainsi que des exigences académiques et professionnelles élevées de la part des employeurs. De plus, en fonction du handicap vécu par la personne, il y a malheureusement souvent des emplois à éliminer de prime abord, soit parce que la personne ne peut pas utiliser une de ses jambes, un de ses bras, ou parce qu'elle ne peut pas garder une position assise de façon prolongée, soulever des poids, marcher sur des terrains accidentés, écrire des textes ou apprendre des concepts abstraits. Ces énumérations ne sont que des exemples illustrant le fait que la recherche d'emploi et l'intégration en emploi pour les personnes en situation de handicap est, par la force des choses, un processus complexe qui demande une bonne dose de créativité, de la souplesse et de la compréhension. Une meilleure intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail passe inévitablement par une plus grande sensibilisation et une éducation concernant leur réalité. Des obstacles de part et d'autre. Plusieurs facteurs appartenant à la fois aux employeurs et aux candidats sont responsables de cette situation. Concernant les obstacles qui viennent de l'employeur, citons le manque de connaissances, la peur, les préjugés, les comportements d'évitement ou les refus d'adapter les processus d'embauche ou les tâches. Du côté des personnes en situation de handicap, ce sont souvent des facteurs d'ordre personnel qui peuvent entraver le processus d'insertion socio-professionnelle, comme diverses craintes qui les retiennent de poser leur candidature à certains postes, le manque de confiance en leurs capacités, la sous-estimation de leurs capacités, le manque de scolarité dans certains cas, ou encore la surprotection par les proches. De plus, d'autres facteurs alourdissent la situation, comme le contexte socio-économique, la tendance à rechercher la performance avant tout, la difficulté chez certains à composer avec la différence, la peur que les personnes handicapées ne soient pas productives, le souci des entreprises d'économiser des coûts et de rationaliser. Certains employeurs pensent aussi à tort qu'embaucher des personnes en situation de handicap leur occasionnera plus de tâches ou de paperasse administrative. L'apport des personnes handicapées sur le marché du travail. Si on leur confie des tâches qui correspondent à leurs capacités et si l'environnement dans lequel ils se trouvent est adapté à leurs besoins, les personnes en situation de handicap deviennent productives et constituent une main-d'œuvre loyale envers les employeurs. Elles reconnaissent la valeur d'un emploi. Il est aussi curieux de constater que certains employeurs considèrent qu'ils font une bonne action lorsqu'ils embauchent une personne en situation de handicap. Ce type de discours fait fausse route et entretient la difficulté à faire valoir à leur juste valeur leurs compétences, à placer les compétences avant le handicap et à entretenir une relation plus égalitaire avec les employeurs. Comme toute autre personne, une personne en situation de handicap devrait être embauchée avant tout pour ses compétences, sa personnalité et son apport unique au milieu de travail et à l'organisation qui l'embauche. Faire la charité revient, en quelque sorte, à diminuer la reconnaissance de leurs compétences, à diminuer la valeur véritable de leur contribution au marché du travail. L'importance de l'éducation pour dépasser les préjugés. Il reste du travail à faire sur le terrain pour favoriser une plus grande intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. En effet, le plus grand obstacle à l'emploi pour les personnes en situation de handicap reste le regard que les employeurs posent sur elles. Les préjugés subsistent et un travail d'éducation est encore à faire. Il n'est pas rare de rencontrer des employeurs qui croient que le taux d'absentéisme chez les employés en situation de handicap est plus élevé. que les personnes handicapées devraient être placées dans des emplois où elles n'échoueront pas, qu'elles ne devraient pas être mises dans des situations où elles sont susceptibles de rencontrer les défis ou des difficultés, qu'elles auront toujours besoin de l'aide d'un collègue ou qu'il est très compliqué d'adapter un environnement de travail pour recevoir une personne avec des limitations. Reconnaître une contribution unique à la société. Autant de préjugés qui nous font oublier que les personnes en situation de handicap sont des personnes à part entière. Elles ont des rêves, des aspirations et un désir profond de se développer, de relever des défis, de tisser des liens et d'apporter leur contribution à la société. La clé dans l'intégration des personnes handicapées en emploi, c'est d'abord la reconnaissance de leur contribution unique à la société. Écoutons-les un instant pour connaître leurs besoins, leurs craintes et leurs idées novatrices qui peuvent parfois sortir du connu ou du confort habituel de plusieurs. Lorsque l'intégration en emploi est un succès, l'employeur et la personne en situation de handicap en retirent des bénéfices substantiels sur les plans économiques et humains. C'était les principaux obstacles à l'intégration et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap, un texte de Mélissa Lévy, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Et le social? Un texte de Gérard Bouchard, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir. Selon l'Observatoire québécois des inégalités, Le Devoir 28 octobre, celles-ci ont augmenté sensiblement depuis la pandémie, créant d'importantes plages de pauvreté. Parallèlement, le problème du logement a pris les dimensions d'une crise. Le nombre de demandes alimentaires s'est envolé. L'itinérance s'étend aux petites villes régionales. Les immigrants souffrent. Tout cela est honteux pour une société comme la nôtre, une société prospère prétendument égalitaire. On connaît aussi l'engorgement des garderies, l'enfance et la jeunesse en difficulté, les familles sans médecin, la discrimination. Ces réalités aurait dû être traité en priorité par l'État. On rêve à ce qui aurait pu être fait si ce gouvernement de comptables n'avait pas autant gaspillé. Mais il avait d'autres priorités. Voici un bref survol de ce qu'il en a fait. La laïcité. Le dossier de la laïcité était apparemment le plus urgent. Le premier ministre a donc orchestré une vigoureuse opération pour réprimer les graves assauts qui la menaçaient. De quoi s'agissait-il? De quelques cas de prières dans les rues, de gardiennes de la petite enfance portant des signes religieux, combien? Et surtout, de cette redoutable insurrection à l'école Bedford, où des enseignants musulmans régnaient en maîtres. Que s'est-il passé? Lorsque le gouvernement est entré en guerre, l'affaire était connue depuis 7 ou 8 ans de l'autorité scolaire qui avait choisi de l'ignorer. Apparemment, le ministère responsable savait lui aussi depuis quelque temps. Les journaux ont dévoilé l'affaire. Monsieur Legault a alors réagi avec une énergie qui faisait croire à une contamination générale du système scolaire. L'opération a conduit à l'adoption du projet de loi 94 qui renforce la laïcité, ajoutant un tour de vis à la restriction des droits. Il aurait suffi de quelques mesures ad hoc, sévères au besoin, pour corriger la situation. À propos de cette loi, je pense à l'interdiction qui frappe le personnel de la petite enfance, une disposition qui tient de l'acharnement. Je pense à l'affaire de l'école Bedford, qui aurait pu être facilement étouffée dans l'œuf. Mais l'occasion était trop belle pour un chef en déficit de popularité. Il avait besoin d'une grande victoire. Quand comprendra-t-on que le Québec a remporté le combat de la laïcité? Assurément, la vigilance s'impose, mais il reste que A. Les pouvoirs sont clairement séparés entre l'État et les Églises. B. L'État est neutre en matière de religion. C. Celles-ci ont toutes les mêmes droits. D. Les citoyens sont libres d'adhérer à la religion de leur choix. E. Ils sont libres aussi de n'adhérer à aucune. Et F. Pour autant qu'on sache, la situation générale est plutôt calme. Souffre-t-on d'intimidation, de violence de la part de groupes religieux? À 5 % de la population, les musulmans menacent-ils de nous remplacer? Ce qui heurte, c'est la visibilité du religieux, un droit pourtant très largement reconnu. Il est permis de le restreindre, mais pour des motifs légitimes. Un exemple bien connu, son interdiction aux agents de l'État autorisés à user de violence contre des citoyens. En passant, pour justifier la répression dans les écoles, les laïcistes se réfèrent malicieusement aux personnes en autorité. Mais a-t-on démontré que ce statut en faisait des citoyens dangereux? L'identité. Voilà un autre flambeau que M. Legault brandit au nom de nos valeurs. Nous sommes tous d'accord, l'État doit protéger notre langue. Il lui faut aussi défendre vigoureusement les valeurs, les idéaux qui nous guident. Mais il est gênant d'en faire des outils électoraux sans se fatiguer beaucoup pour leur donner vie concrètement. C'est ce que notre gouvernement a fait. L'égalité, la solidarité, la compassion sont des champs restés peu cultivés sous M. Legault, qui ne semble guère s'émouvoir de la misère croissante, de la condition des immigrants et de l'école à trois vitesses, cette machine à fabriquer des inégalités. Le pluralisme est carrément resté en friche. C'est la phobie de l'immigrant qui l'a remplacé. De nombreux organismes œuvrant dans la sphère de la culture, cette véritable pierre d'assise de l'identité, crient famine, etc. La démocratie. Quelle attention le Premier ministre a-t-il accordé à cette autre valeur fondamentale? Avant son élection, il voyait un très grave défaut dans le scrutin majoritaire qu'il promettait de remplacer par le scrutin proportionnel. Le Parti québécois et le Parti libéral l'avaient déjà proposé, Québec solidaire l'appuyait. Une fois élu, le chef a honteusement renié son engagement. Le vice persiste donc. Un gouvernement qui est loin d'avoir obtenu la majorité des votes peut légiférer en toute impunité. Voir sur ce sujet l'excellent texte de Jean-Pierre Charbonneau dans Le Devoir du 3 novembre. La démocratie souffre également quand une initiative comme le projet de loi 3 restreint la capacité des organismes syndicaux à intervenir dans les débats publics. C'est oublier le rôle essentiel que ces acteurs collectifs ont joué dans notre histoire en matière d'égalité, d'équité et de progrès social en général. Comment qualifie-t-on un gouvernement qui veut limiter la liberté de parole d'un important acteur collectif? Le social. Revenons au social. Un parti misant sur ce thème plutôt que de s'enfoncer dans le bourbier identitaire serait-il handicapé au Québec? Ce serait méconnaître notre mémoire de porteur d'eau, de pauvre et d'humilié. Miron, notre sueur à gage, notre chair à pavé. C'est une fibre qui résonne toujours fortement chez une très grande partie de la population. Le passé du Parti québécois en témoigne. Il se trouverait alors en terrain ferme, sans ambiguïté, sûr de faire œuvre utile et de rassembler au lieu de diviser. Pourquoi le parti ne renouerait-il pas avec cette voie qui est celle de sa tradition? Une politique sociale bien pensée, jointe à une politique nationale ferme, le ramènerait à ses racines, à ses priorités, à ses valeurs. L'attachement et l'identification au Québec s'accroîtraient. Les Québécois retrouveraient confiance, le parti s'en porterait mieux. Et qui se sentirait menacé par le port du voile chez quelques employés des CPE? Nous aurions autre chose à faire. Bâtir un pays. C'était, et le social, un texte de Gérard Bouchard, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir.
Alzheimer, Parkinson, cancer, l'IA annonce l'ère de l'autodépistage. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 13 janvier 2026 dans Le Devoir. Un casque audio qui repère des signes précoces de la maladie d'Alzheimer, une application pour sonder des traces de cancer grâce à l'iris de l'œil. Au-delà des montres ou bagues connectées, l'intelligence artificielle, IA, veut généraliser l'autodépistage des maladies. La médecine préventive ne marche pas aujourd'hui parce que vous ne voulez pas aller chez le médecin tout le temps pour des tests. Lance Ramzes Alkaed, patron de la jeune entreprise Neurable. Mais si vous saviez quand vous avez besoin d'y aller. Bagues, bracelets ou montres connectées qui pullulaient au récent salon technologique Consumer Electronics Show, CES, de Las Vegas, peuvent déjà surveiller le rythme cardiaque, la pression artérielle ou le taux de glucose avec une acuité variable. Ils répondent à une forte demande du grand public, illustrée par une étude publiée il y a quelques jours par OpenAI, montrant que plus de 200 millions d'internautes consultent ChatGPT chaque semaine sur des sujets de santé. Le groupe, dirigé par Sam Altman, a même lancé mercredi ChatGPT Health, nourri du dossier médical d'un utilisateur avec son consentement et des données recueillies par diverses applications d'objets connectés. En s'appuyant sur la technologie de l'électroencéphalogramme, EEG, Neurable, basé à Boston, a mis au point un casque audio qui enregistre et décrypte l'activité cérébrale. Le modèle actuellement en vente permet d'identifier un ralentissement du cerveau et de suggérer une pause. Neurable travaille aussi à un casque pour optimiser les performances des gamers. Au-delà, la jeune entreprise développe une fonctionnalité comparant les données à l'historique de l'utilisateur qui pourra déceler une déviation, signe possible d'une pathologie, décrit Ramzes Alkaed, dont la société se concentre sur le logiciel en partenariat avec des fabricants d'équipements. Une Apple Watch peut identifier la maladie de Parkinson, mais seulement quand vous commencez à avoir des tremblements, souligne Ramzes Alkaed. Avec l'EEG, vous pouvez voir des choses avant la manifestation de symptômes physiques. Il ne s'agit pas de diagnostic, mais d'alerte, qui peut aussi prévenir d'une dépression ou d'un début de maladie d'Alzheimer, entre autres. Détection avant symptômes. Certains émettent des réserves quant aux capacités des appareils EEG personnels. Je ne pense pas qu'ils soient suffisamment fiables pour découvrir des signes de ces pathologies, considère Anna Wexler, professeure à l'Université de Pennsylvanie, qui étudie notamment les produits de détection grand public, même si elle reconnaît que l'IA a élargi les possibilités de ces appareils. Neurable collabore notamment avec l'armée ukrainienne pour évaluer la santé mentale de soldats de retour du front, ainsi que des prisonniers de guerre, et déceler un possible trouble de stress post-traumatique, TSPT. La jeune entreprise française Naox a développé, elle, des écouteurs EEG reliés à un petit boîtier axé sur l'épilepsie. Mieux que les crises, qui sont en général très rares, l'appareil reconnaît les pointes, ou spikes, des décharges électriques brèves ou anormales dans le cerveau, beaucoup plus difficiles à voir et caractéristiques d'un état épileptique, selon Marc Vaillot, médecin de formation et responsable de l'innovation chez Naox. Contrairement aux casques de Neurable, les écouteurs Naox, qui ont reçu le feu vert de l'Agence américaine du médicament, FDA, se portent plutôt la nuit, pour recueillir plusieurs heures de données à chaque fois. L'entreprise travaille avec les hôpitaux parisiens Rothschild et Lariboisière pour comprendre les liens entre ces spikes et l'Alzheimer, déjà évoqués dans des publications. Naox suit aussi la qualité du sommeil. Beaucoup de bracelets connectés en circulation jouent déjà sur ce terrain. Mais ce n'est pas le poignet qui dort, c'est le cerveau, fait valoir Marc Vaillot, ajoutant que leurs données ne sont qu'indirectes. Les progrès de l'IA et de la technologie en général ont ouvert la voie à la miniaturisation des appareils de détection, loin du lourd matériel des cabinets médicaux ou des hôpitaux, à des prix de plus en plus attractifs. Erie Health s'apprête, elle, à mettre en vente, pour une cinquantaine de dollars, une petite extension pour téléphone intelligent destinée à prendre en photo l'iris de son propriétaire. Elle s'appuie sur l'iridologie, une technique généralement considérée comme non fiable scientifiquement. Mais les fondateurs d'Erie Health sont convaincus de son efficacité pour percevoir une anomalie dans le côlon et bientôt les poumons ou le foie. Tommy Fan, un porte-parole d'Erie Health, évoque un taux de fiabilité de 80% sur des patients déjà diagnostiqués pour un cancer du côlon lors de tests effectués par la compagnie. C'était Alzheimer, Parkinson, cancer. L'IA annonce l'ère de l'autodépistage. Un texte de l'Agence France-Presse, publié le 13 janvier 2026 dans Le Devoir.
Jacques Cartier désigné personnage historique. Un texte de Dave Noël paru le 30 octobre 2025 dans Le Devoir. La silhouette de l'explorateur à la barbichette occupait autrefois une position centrale au Panthéon québécois. L'explorateur Jacques Cartier est depuis le 30 octobre 2025 désigné personnage historique par le gouvernement du Québec, tout comme son ancien patron, le sieur de Roberval. L'établissement d'une éphémère colonie à l'embouchure de la rivière du Cap-Rouge entre 1541 et 1543 hérite quant à lui du statut d'événement historique. Depuis trop longtemps, on ne prend pas soin de la mémoire des grands personnages et lieux qui façonnent notre histoire, explique le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, dans un échange de courriel avec Le Devoir. Les symboles sont importants pour se doter de référents communs. La désignation de la colonie de Charlebourg Royal, à ne pas confondre avec le quartier du même nom, ne signifie pas que les fouilles seront reprises sur le promontoire de Cap-Rouge, où plus de 6000 artefacts ont été exhumés entre 2006 et 2008. La priorité consiste à mettre en valeur le site et à prendre les mesures adéquates permettant la protection des vestiges, souligne le ministre Lacombe. Le parachèvement des fouilles avait été envisagé sous les libéraux de Philippe Couillard. Le projet a toutefois été mis sur la glace en 2018 par le gouvernement Legault, qui a plutôt privilégié l'aménagement d'un centre d'interprétation et d'une passerelle d'observation, offrant aux visiteurs le point de vue qu'avaient Cartier et Roberval sur le fleuve. Colonie et choc microbien. L'établissement de Charlebourg-Royal comprenait deux forts, l'un au sommet des falaises de Cap-Rouge et l'autre en contrebas, sur les berges du Saint-Laurent. Seuls les vestiges du premier ont été retrouvés il y a 20 ans cette année. Les archéologues ont notamment dégagé les fondations de ce qui serait une grosse tour carrée dont la hauteur n'a pu être déterminée. Il faut poursuivre la recherche pour le savoir, car Roberval n'a pas laissé de plan, indique Gilles Sanson, cofondateur de l'Institut Cartier-Roberval. La phase 1 des fouilles, lancée en grande pompe par le premier ministre de l'époque, Jean Charest, avait aussi permis de retrouver des restes présumés d'un corps de garde sur le rebord du précipice. Il y a une partie du bâtiment qui est disparue avec l'érosion de la falaise, regrette M. Sanson. Les archéologues ont fouillé près de 300 mètres carrés, soit le cinquième du site. Ça prendrait au moins 300 mètres carrés supplémentaires, positionnés de façon stratégique pour aller chercher de l'information, avance ce dernier, car le temps presse pour les vestiges de Charlebourg-Royal qui se dégradent sous l'effet combiné de l'acidité du sol et des marmottes. Ces dernières se régalent du charbon de bois provenant des restes des charpentes incendiées par Roberval au moment de l'évacuation de la colonie, en 1543, révélait un rapport signé en 2019 par M. Samson et son collègue Richard Fizette. S'il n'a pas perduré, l'établissement du quartier a eu des répercussions mortifères à long terme. Il serait en effet le point de départ de l'épidémie qui a décimé les Iroquois du Saint-Laurent, explique l'anthropologue Roland Viaud au Devoir. Cartier et Roberval sont arrivés avec près de 500 Français, dont des femmes et des enfants. Ils ont amené toute une basse-cour avec eux et c'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas eu d'agents infectieux, dit-il. Ce fléau invisible, qui serait possiblement la variole, aurait fait disparaître le tiers des Iroquois du Saint-Laurent dans le courant du XVIe siècle, ce qui aurait ensuite rendu possible leur dispersion violente par leurs rivaux autochtones désireux d'ouvrir un couloir commercial vers la mer. Les produits de métal des Français avaient fait des envieux, souligne Roland Viaud. Une étoile qui a pâli. La silhouette de Cartier, reconnaissable à sa barbichette et à son petit chapeau de marin, occupait autrefois une position centrale au Panthéon québécois. L'étoile de l'explorateur a toutefois pâli dans les dernières décennies. Les principaux griefs évoqués à l'encontre du navigateur malouin concernent les enlèvements d'Autochtones qu'il a perpétrés lors de ses voyages exploratoires de 1534 et de 1535. On parle d'une dizaine d'Iroquois séquestrés. Cartier les amenait au roi François Ier pour prouver qu'il avait bel et bien séjourné au Canada, explique Roland Viaud. Les captifs, décédés en France pour la plupart, faisaient également office de bêtes de foire. On les appelait les hommes oiseaux, parce que certains d'entre eux portaient des plumes, souligne M. Viaud. La brouille provoquée par ces enlèvements expliquerait pourquoi Cartier a fondé sa colonie sur les falaises de Cap-Rouge, en retrait du village autochtone de Stadacone, en 1541. C'est vrai que Cartier a amené des Iroquois en France contre leur gré, mais les enlèvements n'étaient pas quelque chose de neuf pour les Autochtones, prévient Roland Viaud. Le spécialiste évoque à ce sujet les guerres de capture pratiquées par les premiers habitants du continent. On enlevait des prisonniers pour remplacer des morts, mais on ne les adoptait pas tous. Il y en a qui étaient maintenus en vie pour être mis à mort plus tard. Ils devenaient des esclaves qu'on garde pour travailler au champ. C'était Jacques Cartier désigné personnage historique, un texte de Dave Noël paru le 30 octobre 2025 dans Le Devoir.